enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous continuons ce matin dans notre message, la réponse de Dieu à la dépression, au burn-out, à l'épuisement, au découragement. Et nous avons comme texte de base, 1er Roi, chapitre 19. J'aimerais vous inviter à regarder avec moi, d'aller dans vos Bibles, à 1er Roi, le 19e chapitre. Nous allons lire un passage, 1er Roi, chapitre 19, les versets 4 à 10, dans quelques instants. Notre message, la réponse de Dieu au burn-out, à l'épuisement et à la dépression. Notre texte, 1er Roi 19. J'ai reçu un email qui représente beaucoup de genres d'emails comme ça que je reçois la semaine dernière, de quelqu'un qui a invité quelqu'un qui était là qui pour la première fois lorsque j'ai débuté cette série. Et la personne a été extrêmement touchée, m'a envoyé un email, a demandé à son ami l'email où on pouvait nous rejoindre, puis m'écrire un peu son témoignage, un peu son parcours de vie. Et une des choses qui m'a surpris et qui m'a touché en même temps, pas surpris, mais qui m'a touché, c'était d'entendre la personne dire, j'étais tellement surpris lorsque mon ami m'a dit, comment ça? Me dit, viens à l'église, le pasteur apporte un message sur la dépression. Il me dit, comment ça qu'on parle de ces sujets-là? Je pensais que la Bible parlait de... Je pensais que les églises chrétiennes parlaient de religion. Je pensais pas que vous parliez des choses de l'actualité autour de nous. Et pourquoi? Lorsqu'on regarde à ce sujet que nous abordons, nous avons besoin de comprendre que le cri de millions de Québécois face à ce sujet, le cri de millions de Québécois est trouvé dans les psaumes, est trouvé à travers toute la parole de Dieu. Que la parole de Dieu fourmille et remplit de moments où des hommes et des femmes expriment leurs émotions, expriment des choses devant Dieu qui représentent le cri, qui trouve un écho dans le cœur de millions de personnes aujourd'hui. Lorsque nous réalisons qu'il y a un Québécois sur 7, 800 000 à 1 million de personnes qui sont aux prises avec une forme de dépression, une forme d'épuisement, de burn-out ou de crise d'angoisse, nous réalisons que le cri de millions de Québécois est trouvé dans les psaumes, des psaumes comme le psaume 25 où nous lisons « Je me sens si seul, si malheureux, je me nourris de désespoir et les angoisses ont rempli mon cœur. » Dieu n'est pas étranger à ce cri. Dieu les a mis ces cris dans la parole de Dieu dans la Bible, pour que vous sachiez qu'il connaît ces cris. Des milliers de Québécois qui disent, apprends-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre? Voici ma misère et ma peine. Faites-moi sortir. Est-ce que quelqu'un peut m'apprendre à sortir de mes angoisses? Pourquoi ce cri est-il trouvé dans la parole de Dieu? Et c'est afin que nous, la Bible nous dit pourquoi, dans Romains 15, la Bible nous dit pourquoi, c'est afin que nous puissions apprendre à soutenir les gens qui traversent ces moments et que nous puissions aussi, à travers la parole de Dieu, apprendre à surmonter ces moments, qu'on puisse apprendre ensemble à venir en aide aux gens qui traversent ces épreuves et qu'on puisse apprendre à vaincre ces épreuves ensemble. Nous qui sommes forts, nous devons apprendre à supporter ceux qui sont dans la détresse. Et ce texte ne veut pas dire qu'il y a dans l'Église des forts et il y a des faibles. Je crois que ce texte nous enseigne qu'à différents moments, parce qu'il y a d'autres versets qui viennent dans l'Épître aux Romains et ailleurs appuyer cette pensée. Et à chaque fois, il y a cette notion, non pas des forts et des faibles, mais cette notion qu'à différents moments de nos vies, nous nous retrouvons dans le camp de ceux qui vivent en paix, qui vivent des moments de bénédiction, mais qu'à différents moments de nos vies, nous traversons des épreuves où nous nous retrouvons dans des moments vulnérables, dans des moments émotivement qui nous ont secoués. La Bible dit, c'est pour ça nous sommes un corps, et que lorsque un membre souffre, il y a une sensibilité qui se développe dans le corps de Christ, que lorsque un membre souffre, nous souffrons tous ensemble, mais que lorsque un membre se réjouira, nous nous réjouirons ensemble de ce que Dieu fait dans sa vie. Alors il y a cette dimension de nous qui sommes forts, nous apprendre à supporter ceux qui sont dans la détresse, mais aussi parce qu'il y a dans les Écritures un message qui va littéralement nous apprendre comment surmonter. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, nous dit Romain, tout ce qui est dans les Écritures l'a été afin de nous apprendre, afin que par la confiance et la consolation que donnent les Écritures, nous puissions posséder l'espérance ou nous puissions retrouver l'espoir. C'est toute la Bible entière. Et c'est Jésus lui-même qui dit, il y a en moi, il y a dans la foi en moi un message que vous pouvez apprendre, un style de vie, un mode de vie, des principes par lesquels chaque être humain peut retrouver l'espoir. C'est pour ça que la voix de Christ transcende les siècles et les millénaires et se fait entendre dans ce lieu ce matin à chaque cœur, à chaque personne, pour vous et pour vos bien-aimés ou quelqu'un qui est près de vous, qui traverse une période de dépression, de burn-out, de découragement, d'angoisse. Et la voix de Dieu se fait entendre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes épuisés et découragés, et moi je vous apprendrai, c'est ce qu'on fait ensemble dans les prochaines semaines, dimanche matin prochain, on continue avec ce message, parce que nous sommes en train d'apprendre, le Seigneur nous apprend lui-même à trouver le repos. Prenez mon joug sur moi, apprenez sur vous, apprenez de moi, recevez mes instructions, et c'est comme cela que vous trouverez du repos pour vos âmes. Notre message débute avec un homme qui, 800 ans avant Jésus-Christ, Élie, un homme désespéré qui a demandé à mourir, était à ce point dans un moment d'angoisse, de dépression, d'aveuglement, qu'il a demandé à mourir alors qu'il s'est écrié, « C'en est trop, je n'en peux plus. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Écoutez-moi bien. Élie a refusé la main de Dieu tendue vers lui. Il s'est enlisé, il s'est endurci, fermé et enlisé dans son isolement et dans son aveuglement et a avorté ainsi le plan que Dieu avait pour sa vie, a amené à une fin, a limité, a attaché les mains de Dieu et a amené à une fin ce que Dieu avait de prévu pour lui, les plans magnifiques que Dieu avait pour lui. Ça, c'était 800 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre époque, il y a ce même choix pour chacun d'entre nous. Et des milliers de personnes, il y a des centaines de personnes dans cette église qui ont fait le choix inverse, qui ont dit, Seigneur, où que je sois, quel que soit le trou dans lequel je me retrouve, je veux crier à toi, je veux apprendre de toi, et tu vas m'apprendre à retrouver l'espoir. Okay? Il y a plusieurs mariages ici à l'église Nouvelle-Vie. Il y a quelques semaines, il y a eu un mariage magnifique d'un jeune homme qui s'appelle Éric Tremblay-Godance, marié une jeune fille qui est impliquée ici, qui est magnifique aussi. Et alors que j'entendais toutes sortes de témoignages à propos d'Éric, j'entendais parler de jeunes et le département de jeunesse me disait comment il est apprécié, comment il est rempli d'espoir pour les autres. C'est quelqu'un qui est en train d'être formé dans notre institut, dans notre collège biblique et qui déjà a commencé à servir le Seigneur et dans le ministère. Et quelqu'un qui parlait, qui disait, Éric, c'est comme un roc, il est tellement fiable et il est toujours là, toujours fiable, toujours. Et alors que j'écoutais ce témoignage-là, puis un gars rempli de courage, rempli d'avenir et rempli d'espérance pour l'avenir, il y avait quelque chose dans mon âme qui était fortifié à la pensée d'où ce jeune homme-là vient. Il y a 800 ans avant Jésus-Christ, presque 3000 ans, Élie a refusé la main de Dieu et a ainsi avorté le plan de Dieu sur sa vie. À notre époque moderne, il y a des hommes et des femmes comme Éric qui, eux, dans son cas, lui, du fond d'une cellule, a crié à Dieu, a demandé au Seigneur, « Apprends-moi à vivre. » Et ont découvert que ce n'est pas seulement un verset sur une page, c'est une promesse vivante. « Venez à moi. » Vous tous qui êtes chargés, qui êtes découragés, qui êtes au bout de vos ressources, et je vous apprendrai comment trouver le chemin de l'espoir et du repos. Alors que vous regardez ce témoignage quelques instants, j'ouvre ce message avec ce témoignage d'Éric Tremblay. Ouvrez vos cœurs et que Dieu remplisse votre âme d'espoir, d'espérance, et que vous puissiez faire ce choix comme lui l'a fait de dire, je vais me tourner vers Dieu et trouver le chemin de la paix.
Aujourd'hui, c'est la tête haute qu'Éric Tremblay peut franchir la porte du centre de détention d'Ottawa-Carlton. Il y a quelques années, c'est les menottes au point qu'il passait, non pas cette porte, mais la porte réservée aux détenus derrière les clôtures de barbelés.
Excusez-moi, je suis en fin de session, puis c'est la fin de la semaine. Faut pas que je parle trop fort non plus. Je suis à l'Institut biblique, puis c'est la fin de session. Les gens sont dans les examens. Je veux pas trop les déranger. Bonjour, mon nom c'est Éric Tremblay. Je viens de l'Ontario. Ça fait à peu près 2 ans que je suis ici à Longueuil. Je suis ici pour faire un baccalauréat en théologie. Puis je vais à l'Église Nouvelle Vie. Mais quand je dis ça aux gens que je vais à l'Église Nouvelle Vie puis que je fais un bac dans un collège biblique, la première pensée, surtout avec les gens que je travaille, c'est ça, c'est un gars qui a grandi dans une famille chrétienne. Il a grandi dans l'Église, il a été élevé dans l'Église. Puis en anglais, il y a un terme pour ça, puis on dit que c'est un goody-goody-two-shoes. J'aimerais bien vous dire ça ce soir, que je suis un goody-goody-two-shoes, mais c'est pas ça pantoute. Moi, j'ai grandi dans une famille, mon père, c'était un militaire. En plus d'être militaire, mon père était alcoolique. Puis en plus d'être un alcoolique, il était très violent. Puis pendant 13 ans de temps, j'étais terrifié de mon père. Ça a duré 13 ans. Mon père est décédé après ça à cause de l'alcool et le stress qu'il avait. Il a pogné une attaque de cœur. Puis moi, la première pensée qui m'est venue, c'était « OK, mon père est parti. C'est qui ce qui va m'arrêter, là? » J'ai rencontré des jeunes qui fumaient de la drogue, qui volaient des autos, qui rentraient dans les maisons puis qui dérobaient toute la place. Pas longtemps après, ils m'ont montré comment fumer de la drogue. Ils m'ont montré comment faire les vols. Puis ça n'a pas pris de temps. Je me suis retrouvé en prison. Les gardiens, ce qu'ils disaient, même une fois que je suis sorti de prison, un d'eux autres, ils ont dit « Éric, ça vaut pas la peine de sortir, on t'a bien gravé ton nom dans la cellule. »
Quand je pense à Éric, là, je pense souvent à les batailles qu'il était impliqué avec. Souvent, il sautait sur des gens qui pouvaient pas se défendre, tu sais, puis moi, j'étais obligée de sauter puis les séparer, tu sais, puis Éric, il lâchait pas. C'est un jeune perdu qui va jamais être capable de se trouver. Tu sais, il va jamais être capable de sortir.
it's funny looking at you now and looking at you back then. Back then, you were very. I found you to be very calculating person. Liked to get in trouble. Liked to fight all the time. At the time, and it's very judgmental of me to say this, but I've seen it happen so many times. You've just figured that this person is going to become a lifer.
Eric came to us in 1996. He came back about a year later in 97, I believe, and he had changed dramatically in that time. So if you ask me who Eric Tremblay was, it was the 1996 version and the 1997 version. The 1996 version was a scared kid. It was a kid whose father had died when he was 14. He was hurting, he was mourning, and things weren't going very well in his life. The 1997 version was quite frightening. This was a very vicious human being who caused great suffering for other kids. It was necessary for us to put him in our special needs unit. He was a bad guy. He was predatory. In fact, I would go so far as to say of the 2,500 young offenders I've dealt with over the years, he'd certainly be in the top 10 worst. I have a copy here of a speech that I read, and I gave him a copy at the time. It's a picture of someone who is violent, who threatens others with words and gestures, who scares others by staring at them, who takes things from them, who insults and humiliates them, who spreads hateful rumors about them, who arranges to have his friends cause problems for them, and whose word cannot be trusted. Eric Tremblay had dug himself a hole the likes of which I have rarely seen. That he has come out of this hole is nothing short of a miracle. Nothing short of a miracle.
C'était ma dernière sentence. On m'a envoyé à Blue Water. C'est proche du lac Huron, à London, Ontario. Puis on m'avait dit, OK, tu vas finir ton 9 mois là-bas. Puis je m'avais fait transférer dans le trou. J'avais pogné une bataille avec quelqu'un, puis on m'a envoyé dans ségrégation. C'est une petite cellule à part. C'est pas comme dans les films. Dans les films, c'est on pitche le pain, puis c'est ça ta nourriture pour la journée. Un seau d'eau, puis c'est ça ta douche. Non, c'est pas comme ça. Il y avait de la lumière, puis c'était pas le fun pareil, c'est pas une place où aller. Durant le jour, il ôtait ton matelas, puis dans toute la journée, tu avais à peu près 20 minutes pour sortir dehors, à l'extérieur, pour marcher alentour d'une clôture. Puis là-dedans, tu avais ta douche. Puis si tu avais la permission d'avoir un téléphone, tu l'avais. Mais c'était vraiment plate. Mais là, je tournais en rond dans ma cellule. Là, je n'avais rien à faire dans ma cellule. Puis je commençais à capoter. Jusqu'au point où j'ai cogné dans la porte. Puis j'ai demandé à un gardien. J'ai dit, écoute, je peux rien faire, là. Je capote. Je tourne en rond. Trouve-moi quelque chose à faire, s'il te plaît. Mais il est allé me chercher un livre. Puis quand il est revenu, il m'a amené le livre s'était marqué dessus, c'était intitulé « Les chaînes brisées de prison ». Ça, ça m'a vraiment touché jusqu'au point où j'en pleurais. Ça a tellement touché mon cœur que je sentais même une présence dans la cellule. Je savais que qu'est-ce que je venais juste de lire, c'était pas un conte de fées. J'ai emprunté son Nouveau Testament, je suis allé m'embarrer dans ma chambre, puis en fermant la porte, je me suis mis à genoux. C'est à ce moment-là que j'ai demandé pardon pour toutes les gaffes que j'ai faites. J'ai prié, j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. Puis cette fois-ci, je suis sérieux, je veux changer. Je te demande de m'aider à me repentir. Je veux vraiment tout abandonner devant toi. Je suis tanné de vivre la vie que je vis. Il y a un vide à l'intérieur, je prie que tu me comptes.
Moi, ça fait 20 ans là, que je travaille dans le centre de correction. Puis il est un des seuls que j'ai vu. Tu sais, j'ai eu la chance de voir que vraiment, il a changé sa vie. C'est vraiment incroyable. Okay. Ça veut dire, tu peux voir là, à Star, tu sais, avec la foi, avec le bon Dieu, puis ça, tu peux
That's
t'en
right.
sortir.
Right.
C'est incroyable. Donc, j'ai des frissons, tu sais, c'est presque des larmes aux yeux, tu sais, vraiment là. Oui, ça me touche vraiment le cœur. Moi, ça me donne un signe que ça marche.
Eric Tremblay, last week our chaplain, we were on a meeting on the Young Offender Unit, and the chaplain said, do you remember Eric Tremblay? And I said, oh yeah, I remember him. And I thought, okay, here it comes, you know, he's done some horrific thing. Why would he be talking about some young offender he was here, what, 7, 8 years ago? And he's killed someone, or he's a mass murderer, or he's done something really spectacularly bad. And he said, oh no, he's in Bible college. What? You've got to be kidding. I mean, it's a joke, right? Eric Tremblay?
J'aimerais qu'on mette une photo à l'écran. Si possible, on va mettre la photo à l'écran. Éric Tremblay. Une minute. Attends une minute. Il n'est pas un meurtrier, il n'est pas un criminel, il n'est pas un délinquant. Il est quelqu'un qui est marié à une jeune fille magnifique, qui a un avenir merveilleux devant lui. Quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, qui lui a dit « Viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je t'apprendrai à trouver le repos. » Et ceux qui étaient morts, c'est assez saisissant de voir des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui sont là, c'est pas un centre chrétien, et qui dit « Moi, ça me donne l'espoir que ça marche. » C'est rien de moins qu'un miracle. Et j'aimerais que l'Église, ce matin, on se joigne aux voix du psychologue et aux voix de la gardienne pour dire « C'est rien de moins qu'un miracle ce que Dieu peut faire à des hommes et des femmes qui se donnent à lui. » Applaudissez le Seigneur. La réponse de Dieu au burn-out et à la dépression. Dieu dit, on a vu ça dans le premier message, « Je vais t'apprendre où regarder. » Et ce matin, Dieu dit, « Je vais t'apprendre quoi refuser et quel est le premier pas d'un croyant. » vers le rétablissement de son âme. Et nous lisons notre texte ce matin dans la parole de Dieu à 1er Roi, chapitre 19, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Si vous n'avez pas de Bible, le verset va apparaître à l'écran. En parlant d'Élie, cet homme désespéré, la Bible nous dit, quant à lui, verset 4, il alla dans le désert à une journée de marche, il s'assit sous un arbre, et demanda la mort, en disant, « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie. » Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un arbre. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là-bas, verset 9, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, mais le peuple ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Et je suis, moi, resté seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Regardez ça un instant. Dieu dit, La réponse de Dieu à la dépression et au burn-out, Dieu dit, je vais t'apprendre où regarder. On a vu ça la semaine dernière. Et Dieu dit, je vais t'apprendre quoi refuser et quelle est la première étape pour te rétablir. On commence, on continue cette semaine et la semaine prochaine avec ce message. Dans les mots-clés du texte qu'on vient de lire, Élie arrive et une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il s'isole. Ce qui est très caractéristique des personnes qui traversent un temps de dépression, c'est une tendance naturelle, mais combien destructive. Il s'isole, il renvoie son serviteur et il devient obsédé avec la pensée que personne ne peut l'aider, personne ne le comprend, personne ne sait ce qu'il traverse. Il s'isole de plus en plus. Il dit, moi, je suis resté seul. Il n'y a personne dans le pays qui est avec Dieu. C'est un homme de Dieu. Il dit, tous les autres ont abandonné. Et c'est alors qu'il est dans cet état qu'un ange de l'Éternel vient et le touche. Il lui dit, lève-toi, mange. Et l'ange de l'Éternel, et plusieurs théologiens pensent que ce sont des christophanies, des théophanies, des apparitions de Christ dans l'Ancien Testament, parce qu'il a l'apparence du Fils de l'homme. Il arrive et il lui prépare le pain, il lui donne à manger, il lui donne à boire, quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui est surnaturel et qui va le restaurer, qui va le renouveler. Au verset 7, l'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Il y a une œuvre de et rappelant à chacun d'entre nous que les personnes qui sont aux prises avec dépression, oppression, crise d'angoisse, burn-out, c'est rarement la question d'un moment. Nous croyons en un Dieu miraculeux qui peut transformer les choses en un instant, mais il y a dans cette parole une seconde fois. Il y a dans cette séquence où Élie est découragé, il est touché, il se nourrit, il se repose, il dort physiquement, il revient, il est touché à nouveau. Il y a un appel à la persévérance, à la patience, à la douceur, à étape par étape, prendre le temps nécessaire pour relever et rebâtir un être humain. Et alors qu'il mange et se nourrit et se fortifie avec ce que le ciel lui donne, avec l'eau du ciel et avec la nourriture que le ciel lui a préparée, c'est vraiment surnaturel, c'est une indication que cette nourriture-là était une œuvre surnaturelle de Dieu, parce que là, il se lève et il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à un endroit qui s'appelle Horeb. Il a trouvé la montagne de Dieu dans un lieu, Horeb, qui signifie désert, au pire des déserts, au lieu de grande sécheresse. Et le dessein de Dieu, le désir de Dieu est de te nourrir surnaturellement, de te fortifier, de t'apprendre à boire aux eaux de sa présence, de t'amener dans un sentier de repos, de restauration, où par sa main, il te touche une fois et il te touche une seconde fois et il t'apprend à devenir quelqu'un qui va trouver la montagne de Dieu dans ton endroit de pire désert. Et Dieu dit, afin que ça prenne place, tu dois, je vais t'apprendre où regarder, on a vu la semaine dernière, mais je vais aussi t'apprendre ce que tu dois refuser. Et la première chose qui est absolument essentielle pour chaque personne qui veut s'en sortir selon le message de Dieu, c'est que tu refuses l'isolement. Tu refuses cette tendance si naturelle. Lui a dit, je suis resté le seul qui n'a pas abandonné son alliance. Il renvoie son serviteur, il est sous l'arbre, et dans ce lieu de solitude, seul avec lui-même, dans son moment de fragilité, dans son moment où il est irrationnel, dans son moment où son découragement, ses émotions, tout ce qui est psychique en lui, et aussi en termes spirituels, sa chair, son humanité, le royaume, le monde des ténèbres, les pensées de destruction l'envahissent. Il en vient à cette pensée que personne ne me comprend, personne ne peut m'aider, personne ne peut faire ce que moi j'aurais pu faire, mais maintenant je suis fini, je ne peux plus me sortir d'ici. Et Dieu lui dit, tu dois refuser l'isolement. Il lui dit ceci, il dit, non, Élie, lève verset 15 à 17, lève-toi, reprends ton chemin et joins-toi. Voulez-vous dire à voix haute, joins-toi. Il dit, tu peux pas rester seul. Joins-toi, rejoins quelqu'un, va vers quelqu'un, ouvre-toi à quelqu'un, parle à quelqu'un, va recevoir de quelqu'un, va reconnaître ton besoin à quelqu'un. Joins-toi à Hazaël, à Jéhu, à Élisée. L'image est magnifique. Le texte dit, ce qu'Hazaël ne pourra pas faire, Jéhu le fera. Et l'ennemi qui échappera à Jéhu, Élisée le vaincra. Il lui dit, va te joindre à quelqu'un. Et ce que toi, t'es pas capable de faire, ce que tu peux pas voir, ce que tu peux pas discerner, ce que tu peux pas rebâtir par toi-même, l'autre personne va le faire, et l'autre personne va le faire. Et ce que tu ne peux pas faire seul, le corps de Christ, ensemble, avec d'autres personnes autour de toi, tu peux être rebâti. Quelqu'un risque quand même. Refuse, Dieu lui dit littéralement, refuse l'isolement. Et à travers toute la Bible, il y a toute une série, j'aurais pu remplir des pages, de serviteurs de Dieu qui avaient de grands appels, qui avaient une connaissance de Dieu, qui avaient une grande foi en Dieu, mais qui ont été particulièrement vulnérables et capables des choses les pires, alors qu'ils se sont permis d'être isolés. D'être isolés des autres croyants, d'être isolés dans leurs pensées, d'être isolés loin de la parole de Dieu, loin de l'influence de Dieu, loin du message de Dieu, loin de personne qui aurait pu les aider, leur parler, confronter les mensonges qu'ils croyaient et avec lesquels ils se nourrissaient. Isolés, Élie a littéralement demandé à mourir, alors que dans le chapitre précédent, il était rempli de foi et de courage. Et là, il est aveuglé à toutes les capacités, possibilités, bonté, fidélité de Dieu, et il demande à mourir. Isolé, Moïse a posé un geste qui lui a fait perdre de longues années. Et c'est alors qu'il était isolé, qu'il était seul, que Moïse a permis à sa colère de l'enflammer et de le pousser même à la violence et au meurtre. Alors qu'il a vu une injustice, il est allé pour défendre un de ses frères et finalement le tuer à main nue, il s'est sauvé en exil. Alors que isolé, chacun d'entre nous, ce qui est le plus bas, le plus dangereux en nous peut nous embraser alors qu'on est seul. Isolé, David a commis l'inimaginable et a rempli sa maison de conflits. Alors qu'il était isolé, alors qu'il aurait dû être au combat avec ses compagnons d'armes, vous connaissez, plusieurs chrétiens connaissent ce récit biblique, alors qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui craignait Dieu, marchait avec Dieu, l'homme qui, dès le début, Dieu avait envoyé un Jonathan avec lui, alors qu'il était en communion avec Jonathan et avec le peuple, et même avec des gens qui étaient loin d'être parfaits. David, dans la caverne d'Abdulam, était avec des gens imparfaits, des gens blessés eux-mêmes, des gens qui avaient des difficultés. Mais il y a un principe biblique que même imparfaits, des gens qui s'unissent ensemble, se fortifient les uns les autres. Alors qu'il est seul sur le toit de sa maison, alors qu'il permet à l'isolement, alors qu'il permet à l'ennemi de l'isoler, David va penser l'impensable, il va convoiter une femme qui n'est pas la sienne, il va s'engager dans toutes sortes de comportements secrets qui vont l'amener à sa destruction, vers des péchés à caractère sexuel et ultimement vers la vengeance et vers essayer de couvrir et de couvrir et de couvrir jusqu'à faire tuer l'homme le mari de cette femme-là pour essayer de couvrir toute la situation. Et à partir de ce moment-là, sa vie est altérée, l'épée ne quittera plus jamais sa maison, et à partir de ce moment-là, bien sûr, il va demander pardon à Dieu, il va se repentir, mais il y a une mesure de ce que sa vie aurait été avec Dieu qui est perdue à jamais et provoquée par l'isolement. Alors qu'il était isolé, Jean-Baptiste, celui qui était né miraculeusement, sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle est née par une action de Dieu et il était cousin avec Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'avant même qu'il soit né, les deux mères se sont rencontrées, Marie et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et les deux se sont parlé, se connaissaient. Et les enfants ont grandi avec cette connaissance de tout le plan de Dieu sur leur vie. Et Jean-Baptiste était appelé à annoncer Jésus. Il était tellement conscient de cette réalité, tellement conscient de comment Jésus était le Christ, que lorsque les disciples le suivent, lui, et arrive le moment du baptême, Jean-Baptiste dira, « Moi, je suis venu et je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui vient qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Moi, il y en a un qui vient et moi, je suis. » Lorsque Jésus arrive, il dit, « Lui, c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui va enlever le péché du monde. Il faut que lui soit élevé et il faut que moi, je diminue. » Jean-Baptiste est totalement conscient de qui est Jésus, totalement en synchronisation avec le plan de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu, connaît les plans de Dieu. Mais lorsqu'il est mis sous arrestation, lorsqu'il est jeté dans un cachot, lorsqu'il est isolé, et dans ce moment d'isolement, toutes les promesses de Dieu commencent à fuir. Toutes les convictions qu'il avait commencent à être mises en question. Et beaucoup d'entre nous avons vécu ces moments. Et alors qu'il est dans ces moments-là de doute, ces moments-là où tout est mis en question, il y a un moment de panique terrible où il dit à ses disciples, « Allez voir Jésus et demandez-lui, est-ce que c'est toi ou il faut en attendre un autre? » On est venu à ne même plus croire, ne même plus voir ce qui était au fond de son être. Il n'y a pas de condamnation dans le cœur de Jésus. Jésus dit aux disciples, allez dire à Jean que les aveugles voient et que les malades sont rencontrés, que les pauvres sont nourris. Allez, il n'y a pas de condamnation dans le cœur de Christ, mais il y a un avertissement envers chaque personne que l'étape numéro un, pour chacun d'entre nous, la chose que nous devons refuser si nous voulons connaître, si nous voulons sortir et être libérés, apprendre à nous rétablir la dépression, c'est qu'il doit y avoir une décision que seulement nous pouvons faire. Une décision de dire, je refuse l'isolement. Je refuse de m'isoler. Je dois reconnaître mon besoin. Je dois m'entourer. C'est pourquoi l'approche de notre Église, l'approche de notre Église pour aider des gens qui sont aux prises avec dépression, qui sont aux prises avec le burn-out et toute forme de troubles psychologiques et de bouleversements intérieurs est une approche profondément chrétienne, biblique. Mais j'appellerais une approche holistique dans le sens qui touche chaque aspect de l'être humain. Très, 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 très pratique. Après 20 ans d'expérience à aider des gens dans ces domaines, j'aimerais vous dire ceci. Je crois que l'Église chrétienne au Québec, à travers le monde, mais au Québec, est passée d'une extrême à l'autre. Il y a 20 ans, 30 ans, il y avait beaucoup d'ignorance à ces sujets, et il y avait une pensée que si quelqu'un, premièrement, il y avait même une pensée qu'un chrétien ne peut pas vivre une dépression, un chrétien ne pourra jamais vivre une affaire comme ça, et les gens vivaient en secret des douleurs terribles. Après ça, il y avait la pensée que si tu as un problème de dépression comme ça, approche-toi, en une seconde, on va prier pour toi, puis ça va terminer. La seule affaire que tu as besoin, c'est un moment de prière, puis tout va être fini. Et alors que, au fil des années, nous avons découvert ce principe biblique que tu as besoin d'autres êtres humains, tu as besoin d'être aidé, tu as besoin de sortir de l'isolement. Il y a un danger que la pendule puisse aller de l'autre côté. Ou maintenant, il y a dans beaucoup de cercles chrétiens que la seule chose qui peut aider un être humain, c'est la relation d'aide, c'est le counseling, parfois même pas chrétien du tout, comme si la Bible, la parole de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de l'Esprit n'a plus rien à voir pour relever un être humain. J'aimerais vous dire que c'est l'ensemble des deux qui vont relever un chrétien et faire une œuvre dans sa vie. Une approche holistique est aussi pratique que... Voici ce que quelqu'un a besoin, je crois, de tout mon cœur lorsqu'il refuse l'isolement. Une approche chrétienne holistique basée sur plus de 20 ans d'expérience avec toute une équipe pastorale pour aider des hommes et des femmes. Ça prend une aide pastorale. Nous sommes là pour vous. Dimanche prochain, le pasteur Denis va apporter la parole à toute une équipe de soins pastoraux qui sont avec lui dans le dimanche dans les prochaines semaines. Pas dimanche prochain, dans deux semaines d'ici. Un suivi médical que oui, quelqu'un qui est chrétien doit aller voir un médecin s'il traverse une dépression, un burn-out, peut avoir des dimensions physiologiques. Tu as besoin d'une aide médicale. Un repos physique et un repos psychologique. Il y a dormi, c'est restauré physiquement. L'implication dans une démarche de relation d'aide chrétienne. Je rends grâce à Dieu. Vous pouvez avoir une dimension d'aide, je crois, avec beaucoup de conseillers en relation d'aide qui ne sont pas chrétiens. Mais je rends grâce à Dieu pour tous les conseillers qu'il y a qui sont chrétiens. Et je crois qu'il y a une dimension de compréhension du royaume de Dieu, de l'action de Dieu, de Élie qui est nourri par le ciel, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, qu'aucun conseiller qui ne connaît pas le Seigneur ne peut vous apporter. Nous sommes dans un royaume qui est un royaume spirituel et je crois que nous sommes bénis. Je veux juste m'arrêter ce matin pour dire merci Seigneur pour Pasteur Denis, merci Seigneur pour toute l'équipe qui est autour de lui, merci Seigneur pour des hommes et des femmes qui sont compétents dans des domaines de relations d'aide, mais qui ont aussi une connaissance et une compréhension et une connaissance personnelle d'un Jésus de miracle qui dit « Venez à moi vous tous et je vous donnerai du repos ». Risquez un amen ce matin. Une implication, une décision spirituelle personnelle. Prière, parole, livre chrétien, etc. Je veux me tenir devant cette estrade, sur cette estrade et vous dire ce matin, je ne crois pas qu'un chrétien devrait, pendant tout, je crois qu'il y a quelque chose de déphasé. Parce que je suis en burn-out ou que je suis en thérapie en ce moment pour une dépression, je suis des mois et des mois et des mois sans lire la parole, sans prier, sans aller dans quoi que ce soit d'influence chrétienne. J'ai besoin de me vider l'esprit. J'aimerais vous dire que je crois que comme Élie a été nourri surnaturellement, a reçu de la part de Dieu un pain et une eau qui venaient du ciel, que Dieu désire dans des moments de dépression, vous allez avoir un conseiller, vous allez avoir de l'aide, mais Dieu désire aussi vous parler pendant cette période-là. Dieu désire parler à votre âme, Dieu désire vous faire du bien. La parole de Dieu, il y a une décision qui doit être prise, un engagement envers l'assistance à l'Église. Je ne crois pas, ça peut être pour quelques semaines, ça peut être dans des cas extrêmes, des cas où il y a un problème qui est psychiatrique, mais dans la majorité des cas, je ne crois pas. J'ai parlé avec Pasteur Denis cette semaine qui disait « Enseigne-le, dis-le, je tiens debout à côté de moi » et dit « Je crois pas non plus, je ne crois pas à cette pensée que je suis en dépression en ce moment, je vais m'éloigner de l'Église pendant des mois, j'ai besoin de changer les idées, j'ai besoin de prendre un repos. » Prendre un repos de la présence de Dieu, prendre un repos de la parole de Dieu, c'est comme de dire « Je vais prendre un repos de manger et boire pendant quelques mois. » Je vais arrêter de manger, je vais arrêter de me nourrir pendant 4-5 mois, voir ce qui va m'arriver. J'aimerais vous dire, je dis tout mon cœur avec compassion et amour, vous pouvez avoir besoin d'un temps physique de restauration, mais le plus rapidement possible, si vous êtes en arrêt, si vous êtes en dépression, si vous êtes en burn-out, si c'est la seule chose que vous faites pendant la semaine, peignez-vous, arrangez-vous, préparez-vous, traînez-vous jusqu'à la maison de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, il y a une onction, il y a une présence, il y a une parole, il y a Dieu qui veut te donner un pain, qui veut te donner de l'eau et qui veut te nourrir et te relever. Décision personnelle, un engagement envers l'Église, parler et être écouté, amitié, un groupe de soutien, Une restauration qui inclut les dimensions physiques, émotionnelles, psychiques, psychologiques, spirituelles, tous ces éléments-là à l'intérieur de la maison de Dieu. Une intervention humaine des gens qui m'aident. Lorsqu'on parle de groupes de soutien, nous avons 150 groupes ici à l'Église, dont des groupes qui s'appellent Vase Restauré, que vous pouvez vous joindre en tout temps. Des groupes de personnes qui se sont sorties et sont en train de s'en sortir. Un groupe, Dieu dit à Élie, joins-toi, rejoins quelqu'un. Groupe de soutien, restauration qui inclut les dimensions physiques, émotionnelles, psychiques, psychologiques, spirituelles. Une intervention humaine et une intervention divine. Cette osmose-là où je m'ouvre à des êtres humains, à des croyants qui peuvent intervenir dans ma vie. Mais aussi, je suis ouvert à chaque jour à ce que Dieu puisse faire ce que lui peut faire. Que les êtres humains vont m'aider en regardant mon passé, en regardant mon présent, mon avenir, m'aider dans des choses que je ne peux pas voir moi-même, confronter des pensées qui sont mensongères en moi. Et je suis là, je suis aidé par les gens autour de moi, prier avec moi, me consoler, mais ensemble conscient qu'il y a une chose que seulement Dieu peut faire, seulement la présence de Dieu peut faire, seulement l'onction de Dieu peut faire, dans la présence du Seigneur, aide humaine et aide spirituelle, afin d'être restauré. Quelqu'un dit amen. Cette dimension de la volonté humaine qui en rencontre la capacité de Dieu, la capacité divine qui est donnée par Dieu. Un être humain qui dit, moi, je prends cette décision, je refuse de m'isoler. J'ai besoin d'aide. Je vais m'ouvrir à quelqu'un. Je vais m'ouvrir à des gens. Je vais reconnaître mon besoin. Je vais parler. Je vais rencontrer un pasteur. Je vais aller à un groupe. Je vais reconnaître ce qui m'arrive. Je vais parler. Je vais aller voir un médecin. Je vais aller voir. Je vais. Moi, il y a cette dimension-là de ma volonté à moi. Même si je suis fatigué, même si j'ai des problèmes de concentration, même si c'est difficile, même si je lis un verset à chaque jour, je vais me nourrir spirituellement. Même si je peux écouter quelques minutes de musique chrétienne, je vais remplir, je vais permettre à mon esprit d'être touché par ce qui est spirituel. Même si c'est une fois par semaine et que c'est difficile pour moi même physiquement, je vais venir, je vais m'asseoir à l'église, mais je suis pas capable de me lever, je vais être assis là et je vais permettre à Dieu de me toucher. Et à cet endroit-là, à cet endroit-là où la volonté humaine amène ce qu'elle peut devant le Seigneur, je vous promets et je vous garantis que le divin de Dieu va vous rencontrer, que là, la puissance de Dieu va venir vous prendre. Je vais terminer pendant que les musiciens s'approchent avec deux témoignages en terminant. On va continuer la semaine prochaine, dimanche prochain, ce message. Dimanche soir dernier, nous avons eu un appel ici, pendant le message, où on avait un rassemblement d'église, il y avait une cinquantaine de pasteurs qui étaient ici. Et j'ai vu la foule qui s'est avancée, qui est en prière en avant, qui est en train de rechercher Dieu, qui cherchait la présence de Dieu. C'était tellement magnifique. Et pendant les chants, pendant la louange, je regardais tous ces pasteurs sur l'estrade. Il y a un des pasteurs qui était là, je ne le nommerai pas, mais lui-même a témoigné de ceci publiquement. Un des pasteurs qui était là, et par la suite, je l'ai vu en train de prier avec les gens. C'est un pasteur qui est partenaire avec nous et qui vit des choses magnifiques dans leur église. J'étais là il y a quelques semaines pour rencontrer leur comité et tout ça. Et puis, c'est tellement beau de voir ce que Dieu fait. Ils ont des œuvres humanitaires qui s'étendent dans la ville. Ils ont un impact auprès des gens de leur ville d'une manière extraordinaire. Dieu leur donne faveur. Il y a une unité entre eux. Des gens acceptent le Seigneur. C'est une église qui a une louange magnifique. C'est une église. Et le pasteur, je le voyais, c'est quelque chose de beau. Lorsque je suis arrivé un dimanche après-midi, il était assis avec ses hommes et je sentais une unité entre eux. Je sentais un enthousiasme entre eux. Je sentais un espoir entre eux. Et lorsque je le regardais sur l'estrade dimanche soir dernier ici, j'étais tellement touché. Je le voyais aller prier avec les gens et je voyais comment est-ce que l'avenir est brillant pour lui. Il y a quelques années, nous étions dans un temps de jeûne. On débute chaque année avec des temps de jeûne et prière pour les pasteurs. Et on l'avait convoqué comme les autres. On les avait invités. Ils venaient plusieurs fois, depuis plusieurs années. Et cette fois-là, lorsque la première journée est arrivée, on me s'est aperçu qu'il n'était pas là. C'était rare parce qu'il était toujours là. Et la première journée, il n'était pas là. Il nous a raconté par la suite ce témoignage que depuis des semaines, il vivait des troubles terribles. Il avait une opposition, il avait un conflit avec des gens dans l'Église qui l'opposaient, puis c'était devenu d'une méchanceté qui était à couper le souffle. Puis il était dans une période de tel découragement qu'après des années de ministère, il s'est dit tout simplement, je suis plus appelé de Dieu. Comprenez-vous que Élie, dans son moment d'isolement, en est venu à ne plus savoir même, à ne plus être capable de voir ce que Dieu l'avait appelé à faire. Jean-Baptiste ne comprenait même plus les promesses les plus élémentaires de Dieu. David en est venu à violer les principes de pureté de Dieu que Dieu avait inculqués, que lui-même avait enseigné au peuple. Et cet homme-là, ce pasteur, dans son moment de solitude, son moment d'isolement, avait écrit sa lettre. Il a écrit sa lettre de démission et a commencé à regarder pour des emplois, quitter le ministère entièrement. Il n'est pas venu au jeûne ce matin-là parce qu'il avait une rencontre le lendemain soir où il était pour remettre sa lettre, l'envoyer sa lettre et arriver à la rencontre avec ses diacres et dire « c'est terminé, je quitte, je suis parti d'ici ». Et alors qu'il était chez lui ce matin-là, il a dit, c'est un homme très terre-à-terre, il a dit « Claude, tu peux pas t'imaginer, c'était comme si le ciel, l'enfer, il y avait tout en moi qui voulait pas aller me joindre à vous, voulait pas aller avec vous autres en jeûne et prière, voulait pas être avec d'autres. Je voulais juste être là, je voulais juste prendre la lettre puis l'envoyer, je voulais juste la donner, je voulais juste me sauver puis en même temps, une partie de moi qui se souvenait de toutes les bénédictions que j'ai vécues en étant en jeûne et prière. Puis c'était un combat, un déchirement pour mon âme. Et finalement, cet après-midi-là, il est arrivé au temps de jeûne et on était une cinquantaine, une quarantaine. Puis c'était assis bien tranquille, il n'a pas dit un mot, il était assis en arrière. Et l'homme qui partageait cet après-midi-là, c'est juste des pasteurs un après l'autre qui partagent une réunion le matin, l'après-midi, le soir, qui ne savait rien. Les premières paroles qui sont sorties de sa bouche, il dit, j'avais d'autres choses à préparer, mais Dieu m'a vraiment donné un message que quelqu'un ici qui a le goût de lâcher, et Dieu veut te dire, lâche pas. Et pendant une heure, il a prêché, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et notre frère était resté en arrière, puis pleurait tout seul à sa place, mais on n'a rien vu, on n'a rien remarqué. Puis il dit, tout ce temps-là, il y avait le combat, est-ce que j'y vais, est-ce que je m'avance, est-ce que je reconnais mon besoin? Et à la fin, le pasteur qui animait a dit, on n'a pas fait ça souvent, ça arrive pas souvent, mais j'ai à cœur de faire ceci. Il a pris une chaise, il l'a mis au milieu, puis il a dit, je crois que, je fais pas ça, je prends embarrasser qui que ce soit, on est des frères ensemble, on est ici pour prier, mais que cet après-midi, si j'avais besoin de faire ceci, j'ai pas fait ça les autres fois, mais j'avais besoin de mettre la chaise, puis il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir dans la chaise, qui va reconnaître son besoin, et Dieu va venir, Dieu va te libérer, Dieu va. Et là, il y avait un silence. Tant que tu fais quelque chose comme ça, c'est merveilleux. Si le monde se met en ligne pour aller à la chaise. Mais lorsque la chaise reste vide, tout le monde était assis pour regarder la chaise. Tous les pasteurs se regardaient, Joël et d'autres étaient là. On se regardait entre nous, tout le monde regardait la chaise, tout le monde regardait la chaise, tu y vas-tu, tu y vas. Il a commencé presque à sortir de l'argent, payer du monde pour aller s'asseoir à sa chaise. Et finalement, dans l'arrière, notre ami est arrivé, s'est assis, puis il a raconté. Puis lui dit, j'ai senti que juste en me levant, j'écrasais la tête de l'ennemi. Juste en me levant, juste en me rendant, juste en m'assoyant. Il a commencé à confesser sa situation. On s'y met à prier. Et nous, on peut faire le mieux qu'on peut, puis on l'a suivi dans les mois qui ont passé par la suite. On peut faire le mieux qu'on peut, mais il y a quelque chose de divin qui est venu. Il y a une onction qui est venue, il y a un éclaircissement. J'étais avec lui la même après-midi lorsqu'il m'a lu la lettre, puis devant moi, il l'a déchiré. Il dit, comment ça, penses-tu que m'as lâché? Penses-tu que m'as lâché? Voyons donc, c'est que j'ai pensé. C'est que j'ai pu penser. Et dans les semaines et mois qui ont suivi, les situations se sont rétablies. J'étais avec lui il y a quelques semaines. Il est uni avec son équipe. L'Église avance, les œuvres humanitaires. Et je frémissais à la pensée que tout ça aurait été manqué parce qu'il aurait choisi de s'isoler. Alors, je déclare aujourd'hui la parole de Dieu à chacun d'entre vous. Et où que tu sois, quel que soit ce que tu traverses, Dieu dit, reprends ton chemin et viens te joindre à nous avec des hommes et des femmes qui m'aiment et avec moi. Et ensemble, nous allons te relever. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir avec moi les possibilités. C'est auprès de Dieu. Je dis que j'avais deux témoignages. J'ai terminé avec ceci. Souvent, on pense que ah, ça, c'est bien, mais moi, ma situation est pire. Ma situation, tu ne peux pas imaginer dans quel trou je suis. Lorsque le psychologue dit à propos d'Éric Tremblay, ce jeune homme avait creusé un trou dans lequel il s'est retrouvé que j'avais rarement vu auparavant. Des milliers de jeunes délinquants qui sont venus ici. Il est un des pires. Quel que soit le trou dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel vous êtes ou que quelqu'un de votre famille se retrouve, les bras de Dieu sont tendus. Il a un message du ciel, une nourriture du ciel, une eau divine, une pluie du ciel qui peut relever un être humain, le changer. J'ai rencontré un pasteur dans mon cours de communication de la parole qui m'a raconté ce témoignage. Je lui ai dit, tu pourrais-tu demander à ce frère de nous écrire et m'envoyer cette lettre qui m'a touché tellement? Je ne dirais pas son nom. Mais un homme qui a joué pour les Alouettes, un joueur de football, qui était une des vedettes des Alouettes il y a quelques années. Je me souviens lorsque... Puis il était chrétien, il venait de donner sa vie au Seigneur. Et on s'est connus et puis je me souviens d'un moment de pur bonheur où il nous avait... donner des billets à moi et mon fils, puis j'ai amené mon fils voir une partie des David Sam, voir une partie des Alouettes. C'est la première fois qu'il assistait à un match de football. Vous savez, lorsque tu vois un match de football, il y a toutes sortes de luberlus dans les estrades, il pleuvait à torrent, puis je disais, c'est ça qui est le fun, le football, c'est ça, c'est hot, il pleut, puis on est là, on est des vrais spectateurs, puis on c'est hot. T'as pas nécessairement convaincu, mais moi j'essayais de...
À un moment donné, il y a un fou des estrades qui avait bu toute la soirée, pendant tout le match, qui est sorti, puis il est parti à courir en sous-vêtements. Il était en caleçon, puis il courait sur le terrain. Mon fils pensait que ça faisait partie du programme. Il regardait ça, il disait « Ah, regarde ça! » Et après le match, on est descendu dans le vestiaire des Alouettes parce que notre ami était là, puis il nous a fait rencontrer les joueurs des Alouettes, toute une gang dans Mont à glace. Parce qu'on a eu le pur bonheur d'aller sur le terrain après le match, puis on a joué au football sur le stade, dans le stade des Alouettes. Mon fils courait pour se lancer le ballon, mais avec son chandail, sa casquette. Cet homme-là, qui commençait les premiers pas dans la foi, avait un arrière-plan, joueur de football des Alouettes, gros gaillard, costaud. Il avait un arrière-plan de dépression dans sa famille, il y a toutes sortes de choses comme ça. À travers une série de décisions terribles, tombé dans le jeu, tombé dans le gambling, s'est éloigné des églises, s'est isolé complètement, éloigné de toute influence chrétienne, a contracté des dettes dangereuses, des gens qui commençaient à en vouloir à sa vie, l'alcool, toxicomanie. Cet homme qui avait été une vedette sportive, avec un salaire très confortable, une famille, a descendu, a tout quitté l'Église, les croyants, quitté sa famille, quitté son épouse, tout quitté. Et dans sa déchéance, s'est retrouvé à la rue comme un itinérant. Je vais vous dire ce matin, où que vous soyez dans la vie, si vous vous tournez vers Dieu, Dieu a un message du ciel pour vous, une compassion. Et ce matin, j'ai vu André Fauché qui était assis à l'arrière, qui a un ministère auprès des personnes de rue, Emmanuel Affronta, toute une équipe qui y vont de plus en plus. D'autres, Daniel, qui sont ici, qui travaillent sur le roc à Montréal. Il y a beaucoup de gens, une fille francine qui travaille à la Maison du Père. Il y a beaucoup de gens de l'Église ici qui œuvrent auprès des gens de la rue. Et vous ne savez pas quel impact vous avez. Cet homme, je ne dirai pas son nom, m'a écrit cette lettre que j'aimerais vous lire ce matin. Cher Pasteur Claude, je considère comme un grand privilège de pouvoir vous partager un rapport sur le travail remarquable de vos équipes de ministères qui vont dans la rue de l'Église Nouvelle-Vie. J'ai été touché à maintes reprises par leur humilité et leur sincérité. Leur récompense sera éternelle. Je ne peux pas vous partager toutes les expériences avec vous, faute de temps. Aussi, je n'ai pas le temps de vous partager toute la signification et l'importance de ce ministère pour les gens de la rue. Mais, pasteur, j'ai passé environ un an et demi dans les rues de Montréal. Je connaissais presque tout le monde dans les rues. Et le ministère des gens de l'Église Nouvelle-Vie est connu et profondément aimé par toutes les gens qui vivent dans la rue. Il est indispensable. Les membres de ce ministère ne sauront jamais à quel point. Pour commencer, laissez-moi vous dire que leur timing était toujours parfait. C'était le matin de Noël, environ à 4h ou 5h du matin. J'avais extrêmement faim. Ça m'a vraiment interpellé car tous les restaurants 24h étaient fermés. J'ai commencé à marcher sur le boulevard Saint-Laurent en direction du Burger King, mais lui aussi était fermé parce que c'était Noël. J'ai traversé la rue avec désespoir car je n'avais même pas mangé depuis 2 ou 3 jours. J'avais vraiment faim, vraiment faim. Soudainement, une minivan s'approche au feu rouge. Quelqu'un baisse sa vitre et s'écrie « Hey, as-tu faim? » J'ai dit « Oui. » J'ai crié « Oui. » Le monsieur, c'était l'équipe de Nouvelle Vie. Le monsieur a stationné sa vanne et 3 autres se sont garés aussi. Je me suis tourné vers l'homme et je lui ai demandé, parce que je les ai regardés dans la voiture, « Est-ce que les autres personnes dans la voiture sont en train de prier? » Il a répondu « Oui, ils sont en train de prier pour toi. » À cet instant, l'Esprit de Dieu s'est emparé de moi comme jamais auparavant et j'ai commencé à pleurer. Je me suis éloigné de la vanne, ne voulant pas que personne ne me voie pleurer, mais l'homme de votre église m'a suivi. Jusqu'à ce jour, je ne me rappelle même pas de son visage parce que je ne pouvais rien voir à travers mes larmes. Il m'a tenu dans ses bras pendant 15 minutes en priant tout le long. Là, je vous dis que je rends grâce à Dieu pour des gens de cette église, des héros en ce qui vous concerne. Hiver comme été, moins 40 l'hiver, été, qui partent à toutes les semaines, s'en vont dans la rue avec de la nourriture, servir, aimer, prier. Je veux qu'on les applaudisse ce matin, ce sont des héros. Il m'a tenu dans ses bras pendant 15 minutes en priant tout le long. J'ai été en contact avec ce ministère-là avant ce matin-là, mais je ne savais pas qu'ils étaient chrétiens. Leur vie et leurs bonnes œuvres étaient leur témoignage. Je pense que c'est ça qui m'a traversé le cœur. J'étais un enfant de Dieu rétrograde, loin de Dieu, et de constater que Dieu prenait encore soin de moi, qui me retrouvait là où j'étais, m'a complètement bouleversé. Écoutez bien la fin. Maintenant, pasteur, je suis à Défi Jeunesse. Et dans la lettre, je vais les résumer, c'est les traduits de l'anglais au français. Il est maintenant à son 8e mois de sobriété dans un programme de 14 mois. Son épouse est revenue et l'attend. Il est dans une église. Il est maintenant regreffé. Il dit, je suis à défi jeunesse, trouvant ici l'aide auquel j'ai besoin. Pasteur Claude, il ne faut jamais que cette équipe lâche. Tout le contraire. Les gens de la rue ont soif de la parole. À un moment donné, j'ai dit à un frère noir qui était un des leaders, un des hommes de Nouvelle Vie, je n'oublierai jamais son sourire. Il m'a beaucoup aidé. Je lui ai dit, les gens de la rue ont besoin de vous. Vous êtes la seule lumière que nous voyons. Vos voitures, votre café, votre nourriture, vos vêtements, la vie dans vos yeux, vos sourires et les chants de louanges qui proviennent de vos voitures, super forts, que tout le monde entend dans la rue, on en a besoin. Pasteur, j'aimerais tellement avoir le privilège de les remercier en personne et de remercier toutes ces équipes pour leurs prières. À travers eux, Dieu m'a rejoint et Dieu m'a ramené à lui. J'aimerais qu'on puisse applaudir eux, mais applaudir un Dieu qui va aller te prendre là où tu es. Alléluia! 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 Un Dieu qui va aller te prendre là où tu es. Alléluia! Alléluia! Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Les têtes penchées pendant un moment en prière. Je ne ferai pas d'appel ici à l'avant. Mais si vous êtes ici ce matin, et vous dites, j'ai besoin de Dieu. Je suis aux prises avec de l'oppression, avec de la fatigue, avec de l'épuisement, avec de la dépression, avec de l'angoisse. Et j'ai été tenté de m'isoler. Mais c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Ce matin, je veux reconnaître mon besoin devant Dieu. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de m'ouvrir. J'aimerais simplement vous demander doucement de lever votre main devant Dieu. Nous allons prier pour vous. Juste lever votre main, la garder levée. Des gens qui ont besoin d'une touche de Dieu ce matin. Gardez-la levée partout à travers ce lieu. Partout des gens qui lèvent leur main. Gardez-la levée un instant. Dire, j'ai besoin. Ou vous levez votre main pour votre fils, pour votre fille, pour votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme, votre père, votre mère qui est dépressif en ce moment. Levez votre main et gardez-la levée. J'aimerais qu'on ouvre les yeux un instant. Et si vous avez près de vous des gens qui ont levé la main, voulez-vous aller les rejoindre? Femme avec femme et homme avec homme. Juste pour dire, je me joins à toi. Je me joins à toi pour mettre une main de prière sur eux. Alors que tous ensemble, nous allons chanter et prier ensemble et dire, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.